Aujourd'hui, qui sait quel dimanche on est? Personne? Rémi? Le dimanche 15 mai, merci Rémi. Personne n'a entendu parler de la Pentecôte? Ah, vous me faites peur. Aujourd'hui, on est le dimanche de Pentecôte. Donc aujourd'hui, vous n'aurez pas le droit à des bruits de chèvres, parce que ça ne s'y prête pas. Pour ceux qui étaient présents la semaine dernière, j'apporte un message sur la chèvre de Monsieur Seguin, qui ne se trouve pas dans la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler de la Pentecôte et nous allons parler du Saint-Esprit. La Pentecôte, en fait, donc c'est une fête qui a été instaurée dans le Nouveau Testament. Elle se trouve, comme souvent, elle se trouve à la date d'une fête qui existait déjà dans la loi de Moïse, la fête de Shavuot. C'était la fête des moissons au départ. Et petit à petit, pour les sacrificateurs, c'est devenu aussi une fête qui commémorait le don de la loi de Moïse. Et puis c'est devenu la fête du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, vous savez qu'il était présent avant même la création. On le trouve dès le premier chapitre de la Genèse. Le Saint-Esprit, il a engendré Jésus-Christ, Matthieu 1, 18. Et puis on le voit intervenir avec puissance dans le deuxième chapitre du livre des Actes, que je vous invite à lire avec moi. Actes, chapitre 2, verset 1. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous ensemble dans un même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu, qui se séparaient les unes des autres, leur apparurent, et elles se posèrent sur chacun d'entre eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et il y avait à ce moment-là à Jérusalem, puisque c'était une fête religieuse, des Juifs qui venaient d'un peu partout, mais qui ne parlaient pas tous l'hébreu. Et ces Juifs, donc là je ne lis plus, je passe quelques versets, ces Juifs entendent tous les disciples parler dans leur langue des merveilles de Dieu. Donc certains sont interpellés, d'autres se moquent en disant « ils sont bourrés ». Alors Pierre, je lis à partir du verset 14, « debout avec les onze, éleva la voix exprimant ces termes. « Vous, Juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais ce qui a été dit, c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. N'est-ce pas, Tom? Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée, et le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a faits par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David a dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur se réjouit, et ma langue est dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie, et tu me rempliras de bonheur par ta présence. » Frère, qu'il me soit permis de vous dire franchement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Mais comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a prévu par ses paroles la résurrection du Christ, qui en effet n'a pas été abandonné dans le séjour des morts et dont la chair n'a pas vu la corruption. Jésus, ce Jésus, Dieu l'a ressuscité et nous en sommes les témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais il dit de lui-même « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres « Frères, que ferons-nous ? » Et Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et Éphésiens 5, 18 nous dit « Soyez remplis de l'Esprit. » Soyez remplis de l'Esprit. Soyez, c'est un impératif. C'est un commandement pour tous les chrétiens. Soyez remplis, c'est, ça se passe au présent. Ça veut dire que c'est une démarche continue, c'est pas juste quelque chose d'occasionnel. Bon, quand vous avez le temps, soyez remplis de l'Esprit. Non. Là, maintenant, et tout à l'heure, et demain, et après-demain, soyez remplis de l'Esprit. Et c'est un passif, parce qu'on ne peut pas se remplir de l'Esprit soi-même. On ne peut pas arriver le matin, ouvrir le robinet et... Je me remplis d'esprit. Non, ça ne dépend pas de nous. C'est passif. Parce que ça dépend de Dieu. On doit se livrer à Dieu et accueillir ce qu'il nous donne, ce qu'il fait en moi. Donc en fait, on pourrait le traduire par « soyez continuellement remplis de l'esprit ». Et ça, c'est dur. Enfin, je ne sais pas si vous y arrivez. Moi, je n'arrive pas à être continuellement rempli de l'esprit. J'ai des excuses. Non, ce n'est pas des excuses, c'est des explications. La chair, acte 7, verset 51, « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ceux que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » C'est dans le livre des actes, il y a déjà eu le baptême du Saint-Esprit. Et pourtant, on nous dit « Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » Il y a l'ennemi, bien sûr, on peut toujours lui en mettre une partie sur le dos. Éphésiens 6, 12, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a le Saint-Esprit, mais il y a des esprits méchants. Et puis les autres, Sartre disait, l'enfer c'est les autres. Acte 2, versets 12 et 13, au moment de la Pentecôte, il est dit, ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » C'était la façon de l'époque de dire « Quelle bande de pochetrons, ces chrétiens ?» Bref, c'est pas gagné d'être continuellement rempli de l'Esprit. Dès qu'il y a une ouverture pour le Saint-Esprit dans notre vie, il y a une résistance en nous, autour de nous et dans le monde des ténèbres. Alors comment faire ? Comment faire pour être rempli par l'Esprit de Dieu ? Dieu, lui, il veut qu'on soit rempli. Après, nous, il faut qu'on l'accepte. Comment on fait ? Alors, comme toujours, j'aime bien regarder dans la Bible. Et là, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que dès l'Ancien Testament, on trouve des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit. Étonnant. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de David. David, on dit toujours, Michel dit toujours, mais j'écoute attentivement Michel, que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Mais la Bible le dit aussi. 1 Samuel, chapitre 13, verset 14. « Maintenant ton règne ne durera pas. » Dieu parle à Saül. « L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Alors, c'était un drôle de choix qu'avait fait le Seigneur. Quand les parents de David reçoivent le prophète Samuel chez eux, qui leur amène une génisse pour faire un sacrifice à Dieu, il demande à Isaïe, le père de David, d'avoir ses fils. Et Isaïe fait venir ses 7 fils. En fait, ses 7 premiers fils. Parce que David, lui, c'est le petit dernier, il reste à l'extérieur en train de garder les moutons, personne ne pense à lui. Son propre père ne concevait même pas que le petit dernier puisse intéresser l'Éternel. Et même Samuel est impressionné par la prestance des aînés. Chaque fois qu'il en voit un, il se dit « Ah non, il est tellement grand, il a l'air tellement fort, tellement fier, forcément c'est lui que l'Éternel a choisi. » Et non, c'est pas lui. Le Seigneur a éliminé d'emblée les 7 premiers fils d'Isaïe. Il a choisi David. Pas à cause de la beauté de son visage, ni à cause de son courage, alors que dans la Bible, il est dit que quand il gardait les moutons, il n'avait pas peur de se battre contre des lions, contre des ours, quand il cherchait à lui emmener une de ses bêtes. David disait « Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » Courageux pour un jeune homme. Non, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. C'est pour ce motif que Dieu a choisi David. Mais la question c'est, pourquoi est-ce que David est un homme selon le cœur de Dieu? La réponse, je crois qu'elle tient dans l'humilité de David. Le cœur de David est suffisamment humble pour battre à l'unisson avec celui de Dieu. Et Dieu appréciait la foi dans le cœur de David. Jean-François Goth un jour était venu et nous avait dit une jolie formule que je vous redonne parce que moi c'est une phrase qui me parle. Il nous disait « La foi, c'est la main qui saisit la grâce. » Et je crois que c'est vraiment ça qu'on voit dans la vie de David. Donc pour revenir au petit David, Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe « L'Éternel n'a choisi aucun d'entre eux. » Puis Samuel dit à Isaïe « Est-ce que tous tes fils sont là ?» Il répondit « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe « Envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas à table avant qu'il ne soit venu ici. » Comme le père a faim et qu'il a hâte de manger, il l'envoie chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel « Lève-toi et oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Donc, David a été rempli de l'Esprit de Dieu, continuellement, à partir de ce jour et dans la suite. Alors, on dit « David est un homme selon le cœur de Dieu ». D'accord, mais David, c'est quand même un gros pécheur. On peut le dire. Mais ce qui le différencie, c'est qu'il est assez humble pour revenir chaque fois devant Dieu et pour se repentir après avoir péché. Parce que les fils d'Isaïe, ils étaient tous du même sang, mais ils n'étaient pas tous de la même trempe. Il y en a un seul qui avait ce courage de s'humilier totalement devant Dieu. Et c'est à cause de ça que c'est lui qui a fait cette expérience. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Alors l'Esprit de l'Éternel, si on se remet à l'époque, parce que nous aujourd'hui, c'est quelque chose de super actuel pour nous. Il y a eu la Pentecôte, on a les dons de l'Esprit. On peut le lire tous les dimanches. Tous les dimanches, il y a des gens qui vont parler dans d'autres langues, il y a des gens qui vont prier pour la guérison. On peut. Mais dans la période couverte par l'Ancien Testament, il arrivait que l'Esprit de l'Éternel saisissent des hommes ou des groupes de personnes. Ça les poussait parfois à des transports de louanges ou à des exhortations collectives, mais ça ne durait pas. On trouve ça dans le livre des Nombres, les 70 anciens sous Moïse. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et il les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans les nuées et parla à Moïse. Il prit de l'Esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Au moment de l'action de l'Esprit, ils se mettent à prophétiser, mais ils ne continuent pas. Ils ne restent pas continuellement dans l'Esprit. Dans le livre des Juges, parce que l'Esprit, on voit toujours ça comme quelque chose de très spirituel, dans le livre des Juges, on a Gédéon. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette, et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Et juste après, Gédéon commence à disposer les peaux de mouton pour interroger Dieu. Donc il est plus conduit par l'Esprit, puisqu'il est obligé de faire des tests à Dieu. « Seigneur, je te pose une peau de mouton, si c'est mouillé à côté et que la peau de mouton elle est sèche, donc là je vais savoir ta volonté. » Alors que normalement avec l'Esprit de Dieu, il devrait le savoir. Samson, Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Samson trouva une mâchoire d'âne, il étendit la main pour la prendre, et il tua 1000 hommes. Ce que je vous disais, l'esprit, c'est pas toujours que des choses hyper spirituelles. Ça nous permet d'être conduits par Dieu, ça nous permet d'avoir sa puissance, mais c'est pas forcément la vision qu'on en a dans l'église. Ah mon frère, l'esprit me dit. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 19, versets 23 à 24, Samuel chante des cantiques au lieu de se venger sur son ennemi. Saül alla lui-même à Rama et arriva à la grande citerne qui est à ses coups. Il demanda « Où sont Samuel et David ?» Il en voulait un mort à ce moment-là. On lui répondit « Ils sont à Najoth, près de Rama. » Et il se dirigea vers Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth, près de Rama. Il enleva ses vêtements, il prophétisa devant Samuel, il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. Et c'est pourquoi l'on dit « Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Là, c'est quelque chose d'assez étrange. Il y va dans l'intention de se venger, mais comme ce n'est pas la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu va se saisir de lui, il va prophétiser, il va parler de la part de Dieu, mais en même temps, il va se rendre totalement ridicule. Et comme Saül, lui, n'a pas l'humilité de David, il va totalement renoncer à ses projets, il va aller se faire oublier quelque temps. Parce que finalement, il supporte assez mal des tournants ridicules par Dieu. Mais, je reviens à mon point de départ, ces expériences que nous on appellerait des expériences charismatiques, elles ne durent pas. L'Esprit saisit occasionnellement des hommes et des femmes pour les aider à remplir une mission précise ou pour transmettre un message particulier à eux ou aux autres. Donc dans l'optique de l'Ancien Testament, David c'est une exception. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Et pourtant, David a connu des défaites, des découragements et même des moments où il avait des éclipses de foi, on va dire. Oui, l'Esprit de Dieu n'était certes pas en lui quand il a menti au sacrificateur, 1 Samuel, chapitre 21, ou quand il a commis l'adultère avec Bathsheba, 2 Samuel 11. Mais ce qu'on retrouve systématiquement, c'est qu'après ses chutes, David s'humiliait. Il retrouvait la communion avec Dieu. Et alors l'Esprit de Dieu le revêtait à nouveau, tant et si bien que parmi tous les personnages de l'Ancien Testament, il a démontré plus particulièrement l'action du Saint-Esprit dans sa vie et par sa vie. Et peut-être plus qu'un certain nombre de personnages du Nouveau Testament. Et nous sommes des personnages du Nouveau Testament. Et pourtant, il y a une différence entre David et nous. C'est que nous, on a plus que lui. David, le grand roi David, qui est célébré par tous les Juifs, l'expérience qu'il a, elle est bien inférieure à celle que chaque croyant dans la Nouvelle Alliance a l'occasion de vivre. Puisque le Seigneur Jésus a annoncé le ministère du Saint-Esprit sous un jour complètement nouveau. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 16 à 17, Jésus nous dit « Moi je prierai le Père, il vous donnera un autre Consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il demeure en vous et il sera avec vous. » Il sera en vous, pardon. Donc en fait, précédemment, au moment où Jésus dit ça, l'Esprit s'était déjà saisi des disciples pour les aider à faire des miracles au nom de Dieu, des guérisons, annoncer des choses, comme dans l'Ancien Testament. Mais la promesse que leur fait Jésus à ce moment-là, elle va beaucoup plus loin. L'Esprit allait demeurer en eux, et il vivrait en eux, dans leur cœur, et son secours leur serait assuré de manière constante. Et cette promesse, c'est ça qui s'est accompli à la Pentecôte. Lorsque l'Esprit est descendu sur les disciples sous forme de langue de feu. Ça, c'est le phénomène visible. Et ça n'a pas duré. Quand vous promenez, vous ne voyez pas des langues de feu qui... Non, on le saurait. Mais par contre, le phénomène visible s'est dissipé au profit de l'expérience permanente. L'Esprit de Dieu nous occupe de manière permanente le sanctuaire humain, notre cœur. D'abord des 120 disciples. Et qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Ces 120 disciples, ils ont commencé à faire rayonner l'amour et la grâce de Dieu. Entre la mort de Jésus et la Pentecôte, ils étaient misérables et vaincus. La seule force qu'ils ont eue, c'était de rester tous ensemble Et encore, ils étaient plus que 120. Alors que les gens qui suivaient Jésus quand il était vivant, il y en avait des milliers. Il y en avait des milliers qui étaient prêts à aller l'écouter même s'ils n'avaient rien à manger. Là, il n'y en a plus que 120. Mais ce don n'a pas été accordé que aux 120. Il a été accordé aux apôtres, aux 120 à Jérusalem, et à toute personne qui, depuis ce jour, s'est repentie de ses péchés, a cru à Jésus et est devenue un enfant de Dieu. Et ça, c'est ce que l'Écriture nous appelle naître de nouveau. Et en plus, une fois qu'on a reçu le Saint-Esprit, par la foi, j'ai une bonne nouvelle. On ne peut plus le perdre. On ne peut plus le perdre. Jean 14, versets 16 et 17, nous dit « Il demeure éternellement avec vous. » Alors, on peut l'attrister, Éphésiens 4, 30. Chaque fois qu'on laisse notre volonté propre ou le monde s'interpose entre nous et Dieu, on fait de la peine au Saint-Esprit. C'est une personne, c'est pas juste quelque chose d'intangible. 1 Thessaloniciens 5, verset 19, on peut même éteindre la flamme du Saint-Esprit qui est en nous lorsque nous persistons dans une vie de désobéissance et d'égarement, alors que le Seigneur nous avertit. Mais on ne peut jamais le perdre. Et d'ailleurs, il est dit dans Éphésiens, chapitre 1, versets 12 et 13, « Nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Je ne sais pas s'il y en a qui regardent Games of Thrones ou simplement des séries moyenâgeuses. Vous savez ce que c'est un sceau? Un sceau, c'est quelque chose qui marque qui a signé et c'est quelque chose qui est permanent et définitif. Quand il y a un décret royal, on met de la cire, le roi met son sceau, qu'il portait souvent comme une bague, et ça dure pour des siècles. Aujourd'hui, on retrouve des parchemins. Avec le sceau de cire est toujours intact. Donc, le sceau du Saint-Esprit, il est éternel sur nos vies. C'est pour ça que nous sommes plus privilégiés que les serviteurs de l'Éternel dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. On est plus privilégiés que David. Mais si on a plus que David, normalement, il devrait y avoir plus de fruits dans nos vies que dans celles de David. Parce qu'on a dit que David, il avait fait des bêtises malgré qu'il ait le Saint-Esprit. Ok, nous aussi on en fait des bêtises. Mais par contre, est-ce que le Saint-Esprit a porté des fruits dignes de Dieu, dignes du Saint-Esprit dans sa vie? Puisque l'Esprit s'invite en nous, c'est une vérité spirituelle qui doit entraîner des conséquences. Dans l'Écriture, on nous enseigne à juger si l'arbre est bon aux fruits qu'il porte. Donc on va essayer de regarder quelques-uns des fruits qui ont été portés par David. Et surtout, ce que je vous demande, c'est de vous demander, vous, chacun d'entre vous, comme moi je me le demande, moi comme j'ai préparé le message, j'ai déjà fait le bilan, il y a encore du boulot. Mais se demander si on porte les mêmes fruits dans nos vies. Et c'est pas grave si on les porte pas. On est encore vivant. On a encore le Saint-Esprit puisqu'il demeure éternellement avec nous. Donc on peut essayer de progresser, de les porter, de continuer à rentrer dans la volonté de Dieu pour porter ses fruits et pour en porter d'autres aussi, parce que Dieu n'est pas limité. Alors, certains des fruits qu'a porté David dans sa vie? D'abord, il y en a un, c'est le soulagement pour ceux qui sont tourmentés dans leur chaîne. En effet, quand David était tout jeune, 1 Samuel, chapitre 16, verset 23, il y avait Saül qui était tourmenté par un mauvais esprit, qui lui donnait mal à la tête, qui le rendait de mauvaise humeur, il était intenable. Et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main, et Saül respirait alors plus à l'aise, et il se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. C'est ça l'impact de la présence de l'esprit dans notre vie. Souvent, des chrétiens se lancent dans des combats spirituels, ils tentent de chasser des démons à tour de bras, mais en fait, ce qu'on voit dans la parole, c'est qu'avant même tout combat spirituel, la simple présence de David faisait du bien à ceux qui l'approchaient. Elle faisait du bien à Saül qui était possédé par un mauvais esprit. Et David, il comprenait pas ce qui se passait. Saül non plus, il comprenait pas ce qui se passait. La seule chose, c'est que l'un et l'autre, ils sentaient la présence de la vie. Et il y avait un moment de pause dans les combats que menait Saül. Est-ce que autour de nous, on apporte la paix? Moi, je me rappelle, j'en profite, Florence n'est pas là. Je me rappelle qu'elle a eu le témoignage lors de son premier lors de son premier contrat à la Société Générale. Elle ne savait pas si ça allait être définitif ou pas. Et les gens lui ont dit, écoute, depuis que tu es là, l'atmosphère est beaucoup plus apaisée. Alors vous connaissez Florence, elle est hyper discrète. Elle n'est pas en train de se mêler des affaires des uns et des autres. Mais il y a la présence de Dieu dans sa vie. Et pas que Florence, dans chacune de nos vies. La question c'est, est-ce que les gens autour de nous se disent, tiens, c'est bizarre, quand il est là, ça va mieux. On se bat moins, il y a moins de tension. Un autre des fruits dans la vie de David, c'est d'être assis dans les lieux célestes. Alors ça, on l'aime bien, cette citation-là. Quand on prie, « Ah, Père éternel, je suis assis à côté de toi dans les lieux célestes, et tu m'entends, puisque je suis assis à côté de toi. » Non, parce que Dieu, quand on est en bas, il ne nous entend pas, il paraît. Non, c'est une position d'autorité, c'est une promesse merveilleuse. Se dire qu'on est à la fois ici, sur cette terre, qu'on vit au milieu des hommes, mais qu'on est aussi assis dans les lieux célestes. On est déjà en train de vivre et de travailler avec Dieu pour amener le royaume de Dieu. Mais dans le cas de David, on se rend compte qu'il considère vraiment les choses du point de vue de Dieu. Alors, ce n'est pas écrit tel quel. Hein. Il faut lire entre les lignes dans des moments difficiles de sa vie. Par exemple, quand il est repris par Nathan après avoir commis l'adultère avec Bathsheba. Bathsheba, elle est tombée enceinte et David n'a rien trouvé de mieux que de faire assassiner son mari. Là, au niveau conduite par le Saint-Esprit, je vous le dis tout de suite, c'est pas bon. Mais Nathan vient, lui montre, met dans la lumière clarté, droit, autorité. Il met dans la lumière ce que David a fait, et là David réagit comme ça. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. » Parce qu'il sait que la réaction de David, elle est sincère. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Ton péché est pardonné, mais ton fils va mourir. C'est pas une punition, ça ? Non, c'est pas une punition. C'est toujours la différence, on a du mal à distinguer de la part de Dieu ce qui est la punition. Or, on n'est pas sous la punition, on a la grâce. Mais il y a les conséquences de ce que nous, on a fait. Et là, c'est une conséquence de ce que David a fait. Et Nathan s'en alla dans la maison. L'Éternel frappa l'enfant, encore une fois, pas pour être méchant. C'est purement et simplement parce qu'en fait, cet enfant, il n'est pas sous la protection de Dieu à cause des circonstances dans lesquelles il est né. Il est sans protection. L'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant, et il jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour qu'il se lève, mais il ne voulut pas et il ne mangea rien avec eux. Le septième jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Ils disaient, voilà, quand l'enfant vivait encore, on lui a parlé, il ne nous a pas écoutés. Maintenant, comment est-ce qu'on va oser lui dire l'enfant est mort ? Il s'affligera bien davantage. David s'aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort ? Alors ils répondirent, il est mort. David se leva de terre, il se lava, soignit, et changea de vêtements. Et il alla dans la maison de l'Éternel, se prosterna. Et de retour chez lui, demanda qu'on lui servît à manger, et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, mais que signifie ce que tu fais ? Pendant que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais, je pleurais, car je me disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'enfant ne vivra pas ? Mais maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je ? Est-ce que je peux le faire revenir ? Moi, j'irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. David consola Bathsheba, sa femme. Il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il les remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jedidja à cause de l'Éternel. Lorsque David est repris par le prophète, aussitôt, il se repent, bien qu'il soit roi. Il lui dit pas, attends, je suis roi, toi t'es prophète, t'y vas mollo avec les critiques, t'as rien à me dire. Nous, on n'est pas roi et on a tendance à le dire ça. Monsieur, arrêtez de parler en classe. Vas-y, t'es qui, toi ? David sait en plus que Dieu est un Dieu compatissant. On lui annonce que son enfant va mourir à cause de ses fautes, et malgré tout, il s'humilie devant lui. Pendant 7 jours, il tente tout pour sauver l'enfant parce qu'il se dit « Je sais que mon Dieu est un Dieu qui a pitié. » Et peut-être que malgré que normalement, ça devrait être la conséquence logique, peut-être qu'il va, à cause de mon chagrin, à cause de mes supplications, peut-être qu'il va intervenir et que la conséquence de mon péché ne va pas intervenir. Mais lorsque l'enfant meurt, il ne se révolte pas. Il sait que ce qui arrive, c'est de sa faute à lui, c'est pas la faute de Dieu. Il reconnaît la justice de ce qui arrive. Il n'est pas non plus dans la culpabilité, et ça c'est super fort. On a toujours tendance à... Même des choses pour lesquelles on n'y est pour rien, on a tendance à se sentir coupable. Lui, c'est de sa faute. C'est de sa faute, c'est lui qui a fait ça au départ. Et malgré tout, il ne manifeste pas de culpabilité. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il a été pardonné par Dieu. Et s'il a été pardonné par Dieu, il n'a pas de raison de lui de continuer à s'en vouloir. On n'est pas au-dessus de Dieu. Si Dieu a pardonné à quelqu'un, on passe pas derrière en disant « Dieu t'a pardonné, mais vas-y, rends-moi des comptes maintenant. » Ben oui, ça fait rigoler quand on le dit vers quelqu'un d'autre, mais on n'arrête pas de se le faire à nous. On demande pardon à Dieu, merci Seigneur, tu m'as pardonné. Oh là là, mais quand même, j'ai pas assuré. Oh, qu'est-ce que je suis nul. Oh, je serais jamais capable d'être un grand serviteur du Seigneur si je fais des choses comme ça. Et après, c'est reparti. Et après, on retourne, ah, Seigneur, pourquoi tu m'as pas pardonné? Mais il vous a pardonné. C'est nous qui nous pardonnons pas. Il n'a pas de chagrin pour la mort de l'enfant. Il est vachement dur, David. Non. Il n'a pas de chagrin pour la mort de l'enfant. Il en a eu. Il a été très triste de le perdre. Mais il n'a plus un chagrin stérile parce qu'il sait que son enfant est dans les mains de Dieu. Et il dit, moi j'irai vers lui. Donc il sait qu'il va le retrouver, son fils. Ce n'est pas de l'insensibilité de sa part. Pendant 7 jours, il a fait tout ce qui était possible pour sauver cet enfant de la mort qui était annoncée par Dieu. Et enfin, David, il n'a pas d'orgueil. Il s'est préoccupé uniquement du point de vue de Dieu sur lui. Et il s'est uniquement préoccupé d'infléchir. Dieu, il n'en avait rien à cirer de ce que ses serviteurs pensaient de lui. Vous savez pourquoi je ne mets pas un costume quand je prêche pas ? Je mets un costume quand je prêche parce que je veux pas que quelqu'un pense que je n'ai pas suffisamment de respect pour Dieu pour pas mettre des beaux habits. Mais le reste du temps, je ne mets pas de costume parce que j'ai pas envie d'être retenu quand j'ai envie de me mettre à genoux parce que je me dis « Non, je vais salir mon pantalon et après lundi, quand je vais arriver au boulot... » J'ai plus d'orgueil que David. J'ai plus d'orgueil que David. Lui, il se préoccupait pas de ça. Et c'est à cause de tout ça qu'on peut dire que David regardait vraiment les choses du point de vue de Dieu, même sur sa propre vie, et non pas du point de vue des hommes. David était aussi un ambassadeur pour Christ. Attendez, David, Christ, il n'était pas né. Si ? C'est un ambassadeur pour Christ. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Et David, en fait, il préfigure Jésus. On a lu tout à l'heure les psaumes où il disait « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, il parle de Jésus. » Déjà, il préfigure Jésus dès qu'il est enfant. Parce que finalement, quand vous y réfléchissez, quand il se bat contre Goliath, Goliath, le défi qu'il lançait à Israël, aux Hébreux, c'était quoi ? C'était, vous envoyez un homme se battre contre moi. Si je gagne, vous serez tous mes esclaves. Si je perds, on s'en va et vous êtes libres. Ça vous dit rien, ça ? Un seul homme qui est prêt à se sacrifier pour que tout le monde soit libre, soit libéré de l'esclavage ? Parce qu'en fait, ils n'envoyaient personne, mais ils étaient morts de trouille. Donc, ils étaient déjà esclaves dans leur tête. Donc David, quand il va se battre tout seul contre Goliath, il est prêt à se sacrifier pour libérer son peuple. Si ça, c'est pas préfigurer Jésus déjà. Il y a d'autres signes aussi qui montrent ça. C'est Jonathan qui nous le montre. 1 Samuel, chapitre 18, verset 1. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retient David et ne le laissa pas retourner à la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Or, dans l'Ancien Testament, avec qui on fait alliance ? Premièrement, avec Dieu. Mais ça n'empêche pas de faire alliance avec les hommes. Vous pouvez me dire que ce n'est pas un signe qu'il le considère déjà comme une préfiguration de Jésus. Mais Jonathan ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements et même son épée, son arc et sa ceinture. Et Jonathan, quand il fait ça, c'est pas quelque chose, c'est pas un acte général, c'est un acte personnel. Il donne à David, en fait, le symbole de sa dignité royale. Normalement, il est fils de roi, il doit être roi. Or, il lui donne son manteau et ses armes, tous les insignes de sa royauté. Comme Jonathan n'est pas encore roi, il ne peut pas lui dire « je te fais roi à ma place ». Mais par contre, parce qu'il n'a pas le pouvoir d'engager le peuple en son nom. Mais par contre, sur sa propre vie, il donne la royauté à David. Il aime David de toute son âme, comme la parole nous demande d'aimer Dieu. Deutéronome, chapitre 6, verset 5, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et il fait alliance avec lui. Pourquoi ? Il n'y a pas besoin de faire une alliance avec David. David, il est dans son camp, et en plus, c'est son serviteur. Un serviteur de son père, mais c'est son serviteur. Et bien pourtant, il sera fidèle à David, même quand David est chassé de partout et que son père veut sa mort. Sans manquer de respect à son père, Jonathan n'a jamais désobéi ni manqué de respect à son père, mais il se mettra toujours la cause de David au-dessus de la volonté de son père et de son propre intérêt. Parce qu'il a reconnu dans David celui qui avait été désigné par le Seigneur, loin du Seigneur, et la préfiguration de Jésus. Est-ce que nous aussi, on est prêts à être ambassadeurs pour Christ ? Est-ce que nous aussi, dans nos actes, on est capable de faire comme Jonathan, des choses qui montrent qu'on donne la royauté à Jésus dans nos vies ? Parce que ça, il n'y a pas besoin d'être à l'église, finalement, pour s'en rendre compte. Nos collègues de boulot, ils s'en rendent compte bien plus que nous. Si nos actes, c'est toujours pour nous faire plaisir, si on a un collègue qui est dans les ennuis et qu'on fait « Oh non, mais lui, ça va, hein, il se débrouille. » On n'est pas ambassadeur de Christ quand on fait ça. Si par contre on est prêt à se nuire parce qu'on considère quelqu'un comme plus important aux yeux de Dieu que nous-mêmes, là on est ambassadeur de Christ. Nous avons reçu plus que David par le don du Saint-Esprit en nous, qui demeure éternellement. Et pourtant, dans nos vies, est-ce qu'on porte les fruits que David a portés, malgré tous ses péchés et malgré toutes ses erreurs ? Si on ne les porte pas, il est temps de nous rappeler ce qui différenciait David de tous les autres. Son humilité et sa capacité à se repentir. Donc si on ne porte pas encore dans nos vies les fruits que David portait, il faut se rappeler que Saül lui aussi avait été choisi par Dieu alors qu'il était tout petit à ses propres yeux. Comme Saül, on a le pouvoir d'attrister ou d'éteindre la flamme de l'esprit. Ou comme David, on peut choisir de se repentir, de rester petit devant Dieu et de le laisser nous utiliser pour être la lumière du monde et le sel de la terre, afin que notre témoignage aille jusqu'au bout du monde. Parce qu'à la Pentecôte, quand l'Esprit nous a été donné, ça a été le signal de l'évangélisation. À partir de ce moment-là, les disciples ont pu parler dans toutes les langues et ont été accompagnés de signes et de miracles qui leur ont permis, malgré les difficultés, malgré les circonstances, d'aller témoigner et de ramener des personnes dans le royaume de Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la Pentecôte. C'est pas la Pentecôte en tant qu'elle-même dont je souhaitais vous parler, c'est notre attitude, puisqu'on a reçu ce Saint-Esprit, c'est notre attitude, la manière, c'est qu'est-ce que nous en faisons ? Est-ce qu'on est des David ou est-ce qu'on est des Saül ? Je vous propose de baisser nos têtes et de prier un instant. Père éternel, merci pour ce don du Saint-Esprit, Seigneur. Et merci pour ton commandement d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. Seigneur, nous n'avions pas forcément conscience de ce qui dans nos vies faisait que nous n'étions pas dans cet ordre que tu nous as donné. Aide-nous maintenant à voir les choses qui nous empêchent d'être remplis de ton Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à faire quelque chose de ton Saint-Esprit, parce que tu ne nous fais pas un don, Seigneur, sans qu'il y ait une utilité derrière. Aide-nous à être des messagers de paix, Seigneur. Aide-nous à être ambassadeurs pour Christ. Aide-nous à avoir cette puissance, Seigneur, de ceux qui sont assis dans les lieux célestes. Aide-nous à regarder les choses de ton point de vue, et non pas de notre point de vue à nous sur la terre. Et aide-nous, par nos simples présences, à être un soulagement pour ceux qui sont tourmentés dans les chaînes. Père éternel, je te remets tous ceux qui ont déjà été baptisés dans le Saint-Esprit Et je te demande de continuer jour après jour à les remplir et à être des canaux de bénédiction. Et Seigneur, je te remets aussi ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et je te demande, Seigneur, de leur montrer ce qui a servi de barrage dans leur vie et de les laisser simplement le relâcher, Seigneur, et de se laisser remplir par toi, jour après jour, éternellement. Que toute gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Amen.